Bienvenue à Sans détour avec Élisande Pellerin. Cette semaine à l'émission, on reçoit Philippe Ducharme, notre chroniqueur scientifique, Maxime Gagnon, président directeur général de la Fondation Altergo, et Maude Massicotte, directrice de Défis sans limite, qui est aussi membre de la table, de la table des groupes des femmes de Montréal. On commence l'émission avec Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique. Bonjour Philippe.
Bonjour Élisande, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Très bien, merci. Très bien.
Philippe, tu nous parles aujourd'hui des troubles bipolaires parce qu'on a des avancées au niveau scientifique.
Absolument. Donc c'est vraiment la nouvelle de l'heure en matière de connaissances sur le trouble bipolaire. On va commencer par parler un petit peu de ce trouble-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche finalement? Donc, commençons par le trouble bipolaire, c'est caractérisé par des variations d'humeur, mais dont l'intensité là va vraiment varier de façon très démesurée chez les personnes qui vivent ça, avec des émotions qui sont pas toujours faciles à maîtriser. La personne va, par exemple, passer de certains états qu'on appelle l'état de manie. Donc, c'est une période qu'on pourrait associer à un grand bonheur, un bonheur très intense, à aussi des périodes moins agréables, des périodes de plus dépressives, donc qui viennent peut-être avec une certaine tristesse, on pourrait dire ça comme ça. Donc, sont vraiment dans un... les émotions puis les humeurs vont vraiment en dents de scie pour ces gens-là. Voilà. Ce trouble-là, de l'humeur, on peut comparer ça comme si c'était sous la gouverne d'un interrupteur, comme si on avait un interrupteur de lumière là qu'on peut bouger on ou off. Mais dans ce cas-ci, ça déclenche les états de manie ou de dépression en alternance, vice-versa.
Et il y a l'équipe de recherche de l'Université McGill qui apporte des éléments clés par rapport à la compréhension.
Tout à fait. Donc, c'est une équipe de recherche qui est dirigée par le professeur Kai Florian Storch du département de psychiatrie de l'Université McGill. Puis, eux autres, ce qui amène comme élément fort intéressant, c'est que le problème à la source peut-être du trouble bipolaire, ça repose sur la synchronisation de deux horloges biologiques internes. La première, c'est l'horloge circadienne. On va en parler dans quelques instants. Et la deuxième, c'est l'horloge dopaminergique. Donc, la première horloge, l'horloge circadienne, c'est la mieux connue. Les gens connaissent ça déjà un peu. C'est l'horloge qui régule les cycles d'éveil et de sommeil. C'est une horloge qui fonctionne à peu près sur une période de 24 heures. La deuxième horloge, par exemple, est moins connue. C'est une horloge qui est contrôlée, qui est régulée par des neurones qui produisent de la dopamine. Donc, ça, c'est un neurotransmetteur qu'on retrouve dans le cerveau. Et le point, c'est qu'il y aurait un manque de synchronisation entre ces deux horloges-là. Puis ça pourrait expliquer les états de manie et de dépression chez les personnes qui sont atteintes du trouble bipolaire. Dans le fond, là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est ce qu'on a remarqué, c'est au niveau de la deuxième horloge. Le rythme de cette horloge-là, parfois, il peut être de 48 heures, ça peut être de 72 heures, mais ça peut être aussi un petit peu plus que 24 heures. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que cette horloge-là, elle peut être réglée à différentes vitesses, en quelque sorte. Elle peut être soit plus rapide, c'est-à-dire un peu plus lente ou moins lente. Et c'est là que, finalement, la découverte est vraiment très intéressante. Ce que les chercheurs pensent actuellement, c'est que lorsque les deux horloges se synchronisent, comme si elles étaient à la même heure, par exemple, c'est ça qui fait que le petit bouton, l'interrupteur, passe, par exemple, à l'état de manie chez la personne atteinte du trouble bipolaire. Il y a même la possibilité que ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes atteintes du trouble bipolaire ont des épisodes de façon très constante. Par exemple, là, l'état de manie un jour, puis le lendemain, l'état dépressif, et ainsi de suite. Donc, tout réside vraiment dans le contrôle de ces deux horloges-là, mais plus précisément de l'horloge dopaminergique. C'est sur celle-là qu'on espère être capable de jouer, de modifier, de mieux comprendre les engrenages à l'intérieur de cette horloge-là. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'ils vont essayer de faire dans les prochaines années, de mieux décortiquer le fonctionnement de cette horloge-là. Puis éventuellement, bien, on pourrait peut-être espérer que ça va amener de nouveaux traitements pour les personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires.
Oui, parce que bien sûr, si on comprend mieux, on peut tester la médication pour essayer de réguler. Tu nous parles aussi, Philippe, de sida.
Oui, on va parler de sida parce qu'il y a une découverte fort intéressante qui a été faite tout récemment par des chercheurs à Montréal qui pourraient amener de nouvelles stratégies pour le débusquer, ce virus-là. Je vais en parler dans quelques instants. Pourquoi je parle de débusquer? C'est parce qu'il y a une tendance à se cacher, ce virus-là. Mais là, on a quelque chose qui nous permettrait de mieux le débusquer puis éventuellement de le mettre un peu mieux KO, si on peut dire. Le sida, ben, c'est quoi? Ben, c'est une maladie qui est causée par un virus. Le virus, on l'appelle le virus de l'immunodéficience humaine, le fameux VIH. Aussi, on entend ça régulièrement. Quand la personne est infectée par le virus, ben, ce virus-là, là, il va directement s'attaquer au système immunitaire. Il va attaquer certains types de globules blancs. On les appelle les lymphocytes. Quand ces globules-là sont atteints, ben, ça fait en sorte que le système de la personne ne peut plus bien se protéger contre d'autres infections, même des infections assez banales pour lesquelles on devrait normalement se défendre. Ben là, le système immunitaire n'est plus capable de le faire à ce moment-là. Depuis des décennies déjà, quelques décennies, on en connaît plus sur le virus, puis on arrive même à mieux le contrôler. Il y a des médicaments, là, on appelle ça des médicaments antirétroviraux. C'est des médicaments qui permettent de le contrôler, mais on peut pas l'éliminer encore complètement. Il reste toujours dans l'organisme et il se cache. Et c'est ça le point. C'est un virus qui sait très bien comment et où se cacher dans l'organisme. Ces cachettes-là, on les appelle des réservoirs, le nom qu'on leur donne. L'idée, c'est que le virus, il se cache, puis dès qu'il y a une situation propice, ben là, il sort de sa cachette, là.
Il s'active, en fait.
Il s'active, exactement. Puis là, ben, ça fait un peu empirer la maladie, si on peut le dire. Donc, éliminer les réservoirs, là, ben, ça serait vraiment la solution pour en venir à bout. Si on arrive à éliminer les réservoirs, ben, ça y est, on aurait peut-être une possibilité de l'éliminer pour de bon. C'est là-dessus que le professeur Eric Cohen, c'est un professeur qui travaille à l'Institut de recherche clinique de Montréal, on appelle ça l'IRCM, ben, eux ont évalué différentes molécules. Ils font ça de concert avec une compagnie pharmaceutique. Ils testent des molécules. Puis c'est des molécules qui sont connues pour être efficaces pour combattre le cancer. Mais là, cette fois-ci, ils les ont pris et se sont dit, tiens, on va tester ça chez des souris qui sont infectées par le virus, des souris qui sont aussi soumises à un traitement médicament là, par des agents antirétroviraux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces petites molécules-là, ben, sont capables de réduire la taille des réservoirs. Donc, sont capables ils font ça de deux manières. Ces médicaments-là, ces molécules-là, juste de deux façons. La première façon, c'est qu'ils vont permettre, ça a l'air drôle à dire, là, mais ils vont réactiver le virus. Ça a l'air drôle, là. On dirait qu'on ne va pas dans le bon sens, mais c'est ça qu'il faut parce que ça les rend détectables, ces cellules-là. Elles deviennent visibles, si tu veux, en quelque sorte.
Oui, okay.
Et la deuxième étape, ben, c'est que ce médicament-là va permettre de faire en sorte que ces cellules-là infectées vont être un peu plus susceptibles à être détruites. Ça va les rendre plus facilement destructibles. Là. On pourrait les éliminer, autrement dit.
Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant dans l'optique où ça va permettre que le virus arrête de se cacher, en fait, comme tu disais tout à l'heure.
Exactement ça. Dans le fond, c'est de le faire sortir de sa cachette, qu'on trouve ces cachettes-là, puis qu'on puisse faire en sorte que ces cellules-là vont mourir. On va pouvoir les amener plus facilement à se faire détruire, si tu veux. Puis pour l'instant, on peut pas dire qu'on peut carrément éliminer le virus. Là, c'est pas encore ça, mais c'est déjà une très belle avancée parce que quand on combine ça avec d'autres stratégies, ben on arrive à éliminer beaucoup plus, de manière importante, les réservoirs de ce virus-là. Fait qu'on fait vraiment un pas dans la bonne direction avec ce genre de traitement-là.
Donc, à ce que j'en comprends, là, on est rendu au point où la souris, en fait, on lui administre ces médicaments-là pour essayer de voir voir si effectivement elle réagit de la façon dont on voudrait qu'elle réagisse. C'est où on en est.
Oui, exactement. Parfait. Dans le fond, les résultats, présentement, c'est sur un modèle de souris. Puis, oui. Tranquillement, pas vite, on va pouvoir peut-être l'amener à être testé chez les humains. On va prendre quand même d'autres études. Là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on fait un petit pas en avant pour comprendre un peu mieux comment venir à bout de ces réservoirs-là.
Ben, en fait, en ayant une idée, ça apporte d'autres idées à d'autres gens. Donc, éventuellement, on arrive à trouver des idées qui fonctionnent. Donc, absolument. C'est quand même prometteur. On peut parler rapidement, donc, d'une innovation qui est prometteuse aussi pour les personnes malvoyantes.
Ben voilà, on va terminer avec ça. Donc, quelque chose d'un peu plus concret, c'est-à-dire qu'il y a une compagnie américaine qui s'appelle Science Corporation qui a mis au point un implant oculaire. Ils l'ont appelé Prima, c'est le nom qu'ils leur ont donné. Ça, c'est un implant qu'on met directement sur la rétine chez des personnes qui sont atteintes de dégénérescence maculaire liée avec l'âge. Donc, certains sont plus familiers avec l'acronyme. C'est l'acronyme DMLA. Et en particulier des gens qui sont au stade avancé de cette maladie-là. Il faut quand même comprendre rapidement que cette maladie-là, ben, ça attaque la partie centrale de la rétine. Ça affecte les cellules de la macula. C'est une zone très précise dans la rétine de l'œil. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça entraîne une vision floue. Ça fait apparaître des taches aussi au niveau de la vision de ces personnes-là. Donc, on comprend vite que c'est assez handicapant là, pour faire des choses comme la lecture ou même se déplacer. Là, on n'a pas une vision adéquate. Donc, l'implant, ben, finalement, c'est quelque chose qu'on met dans l'œil. Ça fonctionne. C'est relié à une paire de lunettes spéciales qu'il faut mettre. Il y a un petit appareil qui est lié à ça aussi qui va permettre de faire le traitement des données. Puis l'implant, il est autonome. Il n'y a pas besoin d'être lié à un câble ni à des fils pour fonctionner. Puis l'implant a même un zoom dedans, t'imagines, quelque chose qui permet donc de grossir les images ou de grossir du texte.
C'est extrêmement technologique, oui.
Ah, vraiment, vraiment. Et puis là, ben, en ce moment, ils font des tests qu'on dit des effets préliminaires. Donc, il y a des patients, il y en a présentement 38 qui sont suivis, de 38 personnes qui sont atteintes de la DMLA, bien entendu. Puis, ben, ils ont cet implant-là. Puis là, avec des tests optométriques, ben, les chercheurs sont capables de voir que, ben, ça améliore vraiment leur capacité de lecture pour lire des mots, voilà. Ça n'a pas d'effet secondaire. Ça, c'est intéressant à dire, puis ça n'a pas non plus d'impact sur l'acuité visuelle en général. Donc, ça n'a pas d'effet néfaste, ça a vraiment juste du bon là, pour l'instant.
C'est quand même vraiment intéressant, là, oui.
Oui. Là, présentement, c'est des essais qui vont se poursuivre jusqu'au mois de février 2026. Puis, si ça va bien, là, si les résultats continuent à aller dans le bon sens, ben, ça se pourrait bien que l'entreprise puisse commercialiser cet implant-là pour le grand public. Fait que c'est une technologie qui est à suivre. Là. Peut-être que d'ici un an ou deux, on va voir ça apparaître comme possibilité pour aider les gens atteints de la DMLA.
C'est quand même fascinant. Merci, Philippe.
Ouais. Ça fait plaisir.
On se retrouve bientôt pour une autre chronique.
Bien sûr. Avec plaisir.
Au revoir.
Bye.
Bonne journée. On retrouve Maxime Gagnon, président directeur général de la Fondation Altergo. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Comment allez-vous? Ben, ça va bien, malgré la neige, ça va bien.
Il y a quand même beaucoup de neige à Montréal.
Oui, beaucoup.
Pour les personnes en situation de handicap, là, c'est joie.
Oui, j'en doute pas. Oui,
on a hâte au printemps.
Oui, mais, c'est cela.
Sur quelque chose d'un peu plus positif, vous venez nous parler donc de l'organisme Altergo qui fête quelque chose d'important cette année.
Son 50e anniversaire de fondation. Donc, c'est quelque chose qui est rare maintenant, des organismes qui sont aussi...
qui durent dans le temps.
Dans le temps. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, on est bien content de tout ça. Et de garder notre rôle, qui est toujours un regroupement de membres. Donc, on est bien fiers de pouvoir garder ce rôle-là, ce focus-là. Donc, oui, des belles choses se sont passées au courant de ces 50 dernières années.
La plupart des gens connaissent la Fondation Altergo, mais pour ceux qui vous connaîtraient pas, pouvez-vous nous présenter l'organisme en bref? Qu'est-ce que vous faites pour aider les gens?
Oui, alors Altergo Association est un regroupement de membres. Au moment où on se parle aujourd'hui, on est 150 membres. Dans le cadre d'Altergo, si on veut la grande famille, on a trois composantes. On a Altergo Association qui est vraiment notre regroupement de membres. On a Altergo Expertise qui va donner souvent consultation, formation pour les gens qui en ont besoin pour concernant les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Ces formations-là, ces conseils-là sont toujours donnés par des personnes qui ont des limitations fonctionnelles à la base. Et on a Altergo Événement, bien sûr, avec notre événement qui est le défi sportif Altergo. Donc, tout ça est sous le grand chapeau d'Altergo, mais les 50 ans d'Altergo Association, oui, on est bien fiers de tout ça avec nos 150 membres maintenant que nous avons avec nous.
On parle de 50 ans. Parlez-nous des débuts d'Altergo. Ça part d'où? Ça part de quelle idée?
Mais à la base, c'est une association régionale de loisirs pour personnes handicapées. Il y en a présentement 14 au Québec. Donc, nous, on est Montréal, la grande région de Montréal. C'est de cette façon-là que ça fonctionne. Et par la suite, ben, c'est sûr que ce qu'on offre, nous, c'est par rapport à un regroupement. Donc, c'est de travailler avec nos membres, d'offrir, si on veut, les services qui vont avec ça. Mais quand tout ça est parti il y a 50 ans, on se rappelle que c'est dans les années 70. Donc, pour les personnes qui avaient des limitations fonctionnelles, c'était pas toujours bien perçu. Maintenant, c'est d'être prôner l'image positive de la personne handicapée ou de la personne qui a une limitation fonctionnelle. Pour nous, c'était important. De là, ce qu'on a fait aussi, c'est dans les années 70, il y a eu plusieurs grands changements avec lesquels on a travaillé, dont le transport adapté aussi qui a commencé dans ces années-là. Donc, c'est ce qu'on veut. Le centre Lucie Bruneau aussi, avec ses 135 résidents à son départ, qui a été bâti en 75. Donc, c'est ce qu'on veut un peu mettre en place. Ces choses-là, comme on veut travailler avec la Ville de Montréal et nos organismes membres, bien sûr, pour le programme d'accompagnement loisirs, pour intégrer les personnes qui ont l'imitation fonctionnelle dans les camps de jour. Donc, tu sais, c'est un peu ça le rôle d'Altergo, là, c'est ce qu'on veut faire toujours avancer les besoins en sport, loisirs, culture pour les personnes handicapées, bien sûr.
Et on a atteint les 50 ans. C'est quoi la suite là, pour Altergo? Qu'est-ce que vous prévoyez dans les prochaines années, dans les prochains mois?
Ben écoute, il y a toujours à faire. On sait que dans le milieu des personnes handicapées, là, il y a toujours quelque chose. Il y a tout le temps une barrière. Il y a tout le temps un dossier à travailler. Donc, nous, on va être présents. On va travailler avec nos membres. C'est ce qu'on veut. Présentement, il y a, j'en parle tout à l'heure, le programme d'accompagnement loisirs. Les besoins sont énormes. Donc, on aimerait ça travailler avec les différents arrondissements, les différentes villes. La ville en tant que telle, c'est-à-dire pour travailler, puis avec notre regroupement provincial aussi, travailler là-dessus, sensibiliser les personnes handicapées, je pense que c'est sur les personnes handicapées, c'est important. On a des élections qui s'en viennent prochainement, donc les élus, tu sais, sensibiliser nos élus aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles, c'est hyper important de leur faire la place, de voir les besoins que ces gens-là ont en sport, loisirs, culture, entre autres, qui est notre chapeau, si on veut. Donc, ça va être nos gros dossiers là, pour les prochains mois et la prochaine année, parce qu'autant au niveau municipal que fédéral, il va y avoir des élections. Donc, c'est de donner la place aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles, d'avoir le droit de parole, de se faire connaître, de faire connaître leurs besoins. C'est un peu le rôle de tout ça qu'on va faire dans les prochaines années. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, avec les différentes associations avec qui on travaille, on va travailler avec eux pour faire avancer les dossiers.
Il y a aussi deux événements majeurs bientôt, là, un qui va avoir lieu au printemps et un qui va avoir lieu en 2026 là, pour vous.
Ben, vous parlez du défi sportif Altergo, je présume, pour celui du printemps?
Oui, tout à fait.
Alors oui, ça sera notre 43e édition pour le défi sportif Altergo. On est bien content de tenir cet événement-là encore une fois à chaque année depuis toutes ces années. Les dates officielles de cette année vont être du 25 avril au 4 mai. Vous pouvez voir notre programmation sur Altergo, sur le site d'Altergo, sur l'onglet défi sportif Altergo. Donc, on est bien content que vous regardiez la programmation. On est en train d'ouvrir nos plages pour le bénévolat aussi. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire du bénévolat, c'est quand même plus de 1000 bénévoles, 1200 bénévoles qu'on accueille à chaque année.
Oui, c'est un événement majeur, là.
Oui, puis c'est ça, on a plusieurs pays qui sont là chaque année, il y a des années, il y a des bâtiments qui se font rénover, donc il y a des compétitions qui ne sont pas là, qui reviennent, mais on a toujours autour d'une douzaine de sports à présenter à chaque année, pour nous c'est important, puis on est environ à 5-6 000 athlètes là, qui sont présents aussi à cet événement-là. Et puis pour 2026, vous parliez de quel événement?
Je pariais donc du défi Altergo qui va avoir lieu donc en Colombie-Britannique parce que vous avez annoncé
Oui, ben c'est ça, on est bien content. On avait justement une délégation qui était là la semaine passée pour parler avec l'organisation là-bas. Mais oui, les dates sont connues. Du 13 au 17 mai 2026 aura lieu le premier défi sportif Altergo en sol canadien autre que Montréal. Et c'est sûr qu'on aimerait ça aussi en créer en Ontario et dans les Maritimes. C'est notre objectif aussi par la suite. Donc, on est bien fiers. C'est un projet que je chérissais avec Monique Lafèvre, fondatrice du défi sportif Altergo, depuis au moins une douzaine d'années. Et à un moment donné, il s'agit qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Donc, avec l'équipe d'Andrea Carey qui est là-bas, chez One Ability en Colombie-Britannique, ben, on va créer le défi sportif Altergo. On est bien contents.
Donc, ça va permettre à la fois de faire connaître votre organisme, mais aussi d'avoir des participants là, partout au Canada.
Bien, c'est ce qui va aider aussi. Tu sais, il y a peut-être des jeunes, des groupes qui vont vouloir aller là-bas participer au défi sportif parce qu'ils vont avoir un volet scolaire.
Oui.
Donc, de permettre à ces jeunes-là de voyager pour un sport qui les passionne, et ça va être intéressant pour eux. Donc, c'est ce qu'on veut. Notre expertise, je parlais d'Altergo Expertise au début tout à l'heure, de pouvoir peut-être transférer nos connaissances là-bas en Colombie-Britannique, de partager ce qui se fait là-bas, les bons coups. Tu sais, c'est toujours ce qu'on fait, on veut toujours s'améliorer. Donc, de partager les bons coups entre les provinces, je pense que ça peut être intéressant. Donc, c'est pas juste un événement sportif, mais ça risque d'être plus grand que ça comme partenariat entre les deux organisations.
Oui, puis ça reste un événement de réseautage aussi, autant pour les jeunes athlètes que pour vous comme organisateur.
Tout à fait. Puis notre slogan qui est en place depuis l'an passé, puis on va le garder encore cette année parce qu'on en est bien fiers, tout part d'ici, c'est un athlète qui commence au défi sportif Altergo puis qui va représenter éventuellement sa province, son pays. C'est ça qui est intéressant. On a des bénévoles, c'est la même chose, des bénévoles qui ont commencé dans le cadre du défi sportif qui sont rendus sur la scène internationale. On a des bailleurs de fonds, on a tout le monde part à un moment donné, dit, hey, moi j'ai commencé au défi sportif à commanditer ce petit événement-là, puis là c'est rendu grandiose. Donc notre slogan qui va être encore cette année, tout part d'ici, prend beaucoup d'importance.
Merci beaucoup d'avoir été là, puis merci de votre travail qui donne un sens à plein de personnes là, qui peuvent pratiquer un sport grâce à vous. On est reconnaissant du travail que vous faites.
Bien, je vous remercie, puis on espère vous recevoir dans le cadre de l'événement cette année.
Bon 50e avec Altergo. Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Après la pause, on parle avec Maude Massicotte de Défil sans limite.
jours, nos bénévoles se détournent.
On retrouve maintenant Maude Massicot, qui est directrice de Défis sans limite, un organisme qui est membre de la table de groupe des femmes de Montréal. Bonjour, Maude.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, merci. On parle avec vous, entre autres, évidemment, là, pour parler de vos organismes, mais aussi pour parler de la table des groupes des femmes de Montréal qui vient de sortir un nouveau rapport.
Oui, on vient de sortir un rapport de mobilité chez les femmes en situation de handicap, donc embarquez avec nous.
Parlez-moi d'abord là, de Défis sans limite, qui est votre organisme. Quel service vous offrez?
Nous, on offre des services d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap physique qui sont semi-autonomes, donc à partir de 18 ans, et qui souhaitent faire des activités sociales en soirée et la semaine et la fin de semaine. Et on offre des accompagnateurs pour leur permettre de pallier à leur difficulté motrice également.
Et je le disais tout à l'heure, là, vous êtes donc membre de la table des groupes des femmes de Montréal. Parlez-moi de l'organisme.
La table des groupes de femmes, ben, on est membre depuis à peu près 2 ans, puis on siège sur le comité mobilité. Donc, cette table va représenter les femmes dans différents contextes, même régional également.
Donc, c'est des militantes, en fait, un regroupement d'organismes militants là, pour les droits des femmes en situation de handicap. C'est ce que je comprends?
Non. Dans le fond, ils vont représenter tous les femmes.
Oui, OK, d'accord.
Donc, ils vont défendre les droits des femmes dans une perspective féministe et intersectionnelle. Donc, ils vont travailler tout, pour le Grand Montréal et aussi en collaboration avec les autres régions aussi.
Voilà. Je le disais tout à l'heure, donc un nouveau rapport qui est sorti qui dénonce la situation là pour les femmes dans Montréal, comme quoi Montréal est dangereux en fait là, pour les femmes en situation de handicap.
Oui, effectivement, ben, ça a été suite à plusieurs discussions de différents groupes de femmes qu'on est venu à la conclusion de vraiment faire un projet de recherche pour vraiment identifier les situations problématiques aussi, puis avoir des données également, parce que oui, ça touche les femmes en situation de handicap, mais ça touche l'ensemble de la population également aussi.
Parlez-moi, il y a des principaux constats qui ont été faits par le rapport, là.
Ben, c'est sûr qu'au niveau de l'harcèlement dans les transports en commun aussi, il y a harcèlement également dans le transport adapté, qu'on pense que ça peut être sécuritaire, mais ce n'est pas toujours. Également aussi, les 90% des femmes se sentent stressées également de pouvoir se promener dans la ville en toute sécurité. Également, non, il y a toujours de stress aussi, non seulement de savoir s'ils vont arriver à l'heure, à leur travail, à l'école ou autre, ou même juste aller faire leur épicerie, c'est impossible aussi parce que le transport adapté est juste un sac d'épicerie pour aller pour prendre le transport adapté. Donc, c'est très limitant pour les femmes qui souhaitent être mères, étudiantes, travailleuses et tout, qui ont plusieurs chapeaux également.
Oui, et ça a deux parts, en fait, le rapport. D'un côté, on dit il y a des obstacles physiques, hein, le déneigement qui est mal fait, les trottoirs qui ne sont pas adaptés, par exemple, donc, ou les autobus qui ne sont pas adaptés, tout ça. Donc, on a un aspect physique et on a un aspect humain où les gens sont mal formés, où il y a le personnel qui se posait à aider aux personnes en situation de handicap et a des préjugés, où, par exemple, les femmes subissent la violence ou du harcèlement de la part soit des employés ou de la part du reste de la population.
Oui, effectivement, on parle beaucoup, on a misé beaucoup sur la formation, surtout pour les chauffeurs de transport adapté, également pour avoir un meilleur service à la clientèle aussi, parce que c'est souvent inquiétant, souvent les chauffeurs, s'ils ne sont pas des chauffeurs de minibus, reçoivent à peu près une demi-journée de formation. Donc, c'est très, très peu suffisant pour avoir un service adéquat pour une clientèle comme la nôtre.
Et également, là, vous l'avez dit, donc le transport adapté est quand même très limité. Là. Il faut le prévenir d'avance. On ne peut pas changer les heures. On peut attendre 1 heure, 2 heures que le transport adapté arrive parce que des retards qui sont fréquents. Il faut être disponible bien à l'avance pour prendre son transport. Donc, il faut sortir plusieurs minutes d'avance, voire une demi-heure à l'avance. Et puis, vous l'avez dit, il y a des règlements là, comme le fait de devoir apporter seulement un sac d'épicerie, par exemple, qui font en sorte que c'est extrêmement limitant là, pour les femmes qui essaient, comme vous le dites, d'avoir une carrière, d'avoir une famille, de vivre normalement, finalement.
Oui, effectivement. Puis c'est sûr que le transport adapté, c'est dans le rapport, on peut dire qu'on, oui, il y a beaucoup de choses qui ne marquent pas, mais malheureusement, c'est le moyen qui est le plus direct, que les femmes trouvent le plus sécuritaire adéquat parce que, à comparer de tous les autres moyens à mobilité, donc surtout l'hiver, on va préférer prendre le transport adapté parce que c'est impossible au niveau de prendre le métro, l'autobus et autres transports également aussi. Et sans parler aussi de tout l'aspect logistique du transport adapté, mais on n'en parle pas assez, mais les femmes qui souhaitent amener leur enfant ou avoir plusieurs enfants dans le transport, c'est impossible.
Oui.
C'est juste un enfant en bas de 12 ans n'est pas considéré comme un accompagnateur. En haut de 12 ans, il est considéré comme un accompagnateur. Donc, tu vois que si l'enfant a plus que 12 ans, il ne peut pas amener d'autres enfants. Donc, ça devient problématique à ce niveau-là aussi. Et tout l'aspect aussi de le siège d'auto. Donc, la femme doit être capable de manipuler le siège d'auto, de l'installer. C'est pas le chauffeur qui le fait non plus. Et une fois rendu à la garderie, à l'école, souvent, il faut rester sur place 1 heure pour avoir un autre transport pour aller à l'école ou au travail.
Oui, effectivement, donc ça cause toutes sortes de problèmes. On peut imaginer une femme qui a 2 enfants, on peut imaginer une femme qui veut aller porter ses enfants à la garderie et revenir à la maison, c'est impossible. Donc, effectivement, au niveau du transport adapté, il y a énormément de restrictions parce que, bien sûr, ils ont un budget limité, mais il y a également donc des décisions qui sont prises en amont sans vraiment consulter les besoins des femmes en situation d'handicap. Pardon, Aisy.
Malheureusement, tout projet, toute mesure, on est les dernières consultées. Soit dans des consultations ou dans d'autres projets, soit qu'on on sait à la dernière minute ou on ne sait pas en fait non plus. Donc, c'est un peu difficile de dire, OK, il faudrait, avez-vous pensé à ça, qu'on pourrait faire ça autrement, alors qu'on est toujours en train de recorriger et de revoir, de dire, il va falloir que vous devez des facteurs pour rendre ça plus accessible.
Et pourquoi on parle des femmes en situation de handicap particulièrement? En quoi elles sont plus à risque comparativement aux hommes en situation de handicap?
Ben, c'est sûr que selon les sondages, les femmes sont plus majoritairement au niveau du salaire plus bas aussi, beaucoup plus de responsabilités et de charges également. Puis souvent, on s'entend que les hommes aussi ont plus de plus grands moyens, donc on va dire qu'ils vont avoir plus de moyens pour pouvoir avoir un auto ou un accès pour pouvoir se déplacer plus facilement à ce niveau-là.
Et j'imagine que le harcèlement également est plus présent au niveau des femmes en situation de handicap que des hommes en situation de handicap.
Oui, effectivement. Effectivement, que ça soit dans la rue, que ça soit dans le transport commun, partout, que ça soit psychologique, que ça soit physique. Donc, il y en a de toutes les sortes aussi.
En terminant, Mme Maude Massicotte, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, citoyenne, là, pour les auditeurs, les auditrices, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à cause?
Ben, aller sur le site de la table de groupe de femmes pour aller justement télécharger notre rapport. C'est quand même très bien détaillé, c'est très bon. Puis les faillants sont faciles à recourir aussi. Puis aussi, si vous pensez à des projets, des choses comme ça, de penser de nous inclure également aussi. Et si vous voyez une femme en difficulté ou autre, allez lui porter assistance aussi, de toujours lui demander c'est quoi son besoin et si elle a besoin d'aide avant de prendre action pour elle dès le départ.
Oui, ça c'est important de le dire, donc de vraiment écouter les besoins et d'être à l'écoute plutôt que de prendre les devants quand quelqu'un est en difficulté. Je pense que c'est important parce que parfois les gens veulent bien faire, mais non, ne répondent pas aux besoins de la personne.
Non, exactement. Puis peut-être souvent, on va peut-être nuire plus que d'autres choses.
Effectivement, ça arrive là, que les personnes, même s'ils veulent bien faire, là, nuisent à la situation. Là. Donc, merci Mme Maude Massicotte, directrice de Défis sans limite et membre de la table des groupes des femmes de Montréal. Merci beaucoup de votre travail.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous. Thank you. on revient avec quelques nouvelles. D'abord, on va parler de la France. On en a parlé dans les dernières semaines beaucoup. On a 20 ans après la loi de 2005 qui a été adoptée, donc le 11 février 2005. Est-ce que les choses ont vraiment changé en France? On parle de la loi pour l'égalité des personnes en situation d'handicap, qui a quand même constitué un tournant majeur au niveau législatif pour construire une société plus adéquate pour les personnes en situation de handicap. On avait deux champs prioritaires à cette loi-là. Donc, il y a SFTC qui révèle de chagrin progrès significatif donc au niveau social et au niveau du travail. Mais quand même, on a différentes difficultés à faire avancer les choses malgré la loi qui a 20 ans. Donc, on parle de la protection sociale qui a quand même avancé dans l'optique où on a une meilleure protection sociale des personnes en situation de handicap. Par contre, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en France est la principale source de financement de cette aide sociale-là, évidemment, est trop peu financée. Par contre, l'aide sociale vise à permettre à toute personne en situation d'handicap de composer au quotidien avec son handicap. Donc, par exemple, de payer des charges financières et des aides de différentes natures. Donc, la rémunération d'un aide à domicile, l'achat de location matérielle pour compenser au handicap, les fauteuils roulants ou les appareils auditifs, par exemple. L'aménagement de logement et l'aménagement de véhicules. Donc, on appelle ça la PCH qui a été mise en place. Donc, on partait de rien, on partait de zéro en France en 2005 par rapport à ça. Donc, ça a quand même été mis en place, mais bien sûr, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a parlé des ratés de la PCH parce qu'évidemment, les montants sont pas assez élevés, on manque de personnel, donc on coupe dans les services, un peu comme au Québec finalement. Mais l'idée était là, hein, on voulait mettre en place cette loi-là, ce service-là, et ça a été mis en place. Donc, on imagine là, que c'est un progrès qu'il faut souligner malgré toutes ces imperfections parce que évidemment, là, ça manque de personnel, ça manque de ressources, ça manque de financement, mais quand même, ça a été mis en place. Au niveau du travail, on a des avancées, mais encore une fois, un bilan qui est mitigé, encore une fois, on en a parlé dans les dernières semaines. En France comme au Québec, d'ailleurs, il y a énormément de personnes en situation de handicap sur le chômage. C'est plus que le double des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Les personnes ont, les employeurs ont l'obligation donc de mettre en place des accommodements aux personnes en situation de handicap sur leur lieu de travail. Par contre, la loi n'est pas assez coercitive, c'est-à-dire que il est difficile de prouver que la personne n'a pas été engagée à cause de son handicap ou a été mise à la porte à cause de son handicap ou à cause d'une mauvaise volonté d'adaptation de la part des patrons. Donc, ça reste quand même très difficile pour les personnes en situation de handicap à l'emploi parce que la loi est quand même facile à détourné. Personnes qui ont 20 salariés ou plus, les entreprises qui ont 20 salariés ou plus, doivent employer des personnes en situation de handicap à la hauteur de 6 % de leur effectif. Ça aussi, ça vient de la loi de 2005. Cependant, la loi prévoit des amendes pour les personnes qui n'ont pas, les entreprises qui n'ont pas le 6 % de personnes en situation d'handicap dans leurs employés. Et comme on le disait il y a quelques semaines, les employeurs préfèrent payer l'amende plutôt que d'engager des personnes en situation de handicap parce que l'amende n'est pas assez salée. Donc, ça leur revient plus facile de payer l'amende que d'engager des personnes en situation de handicap. Donc, là, il faudrait penser à des mesures plus coercitives. Il faudrait également penser à avoir peut-être un meilleur accompagnement des employeurs pour que le fait d'engager des personnes en situation de handicap ne soit pas vu comme étant une aussi grosse montagne. Et parce que là, les faits, dans la plupart des cas, les personnes en situation de handicap demandent très peu d'adaptation au travail. Donc, c'est quelque chose à suivre en France. Et malgré 20 ans de la loi, on voit quand même qu'il y a du travail à faire. au niveau de l'emploi, mais également, évidemment, au niveau de toute l'image des personnes en situation de handicap qui sont vues comme étant vulnérables, qui sont vues comme étant des employés indésirables pour plusieurs compagnies. Et évidemment, il faut voir au niveau de faire changer les mentalités en France et ça reste un gros travail à faire. Si on revient au Québec maintenant, on parle des coûts de déplacement et des coûts d'accessibilité au parasport comme étant un défi pour les personnes en situation de handicap qui voudraient faire un peu plus de sport adapté. À ce propos, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va recevoir la directrice de l'organisme Parasport Québec qui va venir nous parler justement de ces défis-là pour les personnes en situation de handicap. Mais pour faire un résumé de ce qu'on va parler la semaine prochaine, en fait, c'est que les personnes en situation de handicap ont besoin d'équipements adaptés, hein, de fauteuils, par exemple, adaptés au sport. Si on parle du soccer en fauteuil roulant, par exemple, les fauteuils qui sont adaptés au sport vont plus vite, ils sont plus adaptés au sport pour être plus bas, donc pour être plus mobile pour les personnes en situation de handicap. Ces fauteuils-là valent plusieurs milliers de dollars. Ils ne sont pas pris en charge par les aides gouvernementales. Donc, pour quelqu'un qui voudrait avancer dans le sport, en faire éventuellement peut-être une carrière d'ailleurs, a besoin de ces adaptations-là, a besoin du bon équipement et ça coûte plusieurs milliers d'euros. Il y a aussi les déplacements. Hein, il faut se rendre dans des villes où le parasport est offert, devrais-je dire. Donc, on parle évidemment de Montréal, on parle de Québec, des grandes villes, mais pour les personnes qui habitent en périphérie, ben à ce moment-là, il faut se rendre dans les grandes villes pour avoir accès au parasport. Et on l'a dit tout à l'heure avec Mme Massicotte, hein, le transport adapté a ses limites et souvent le transport adapté reste dans la ville, donc ne fait pas ou fait très peu de déplacements entre les villes et quand ils le font, c'est pour des raisons médicales pour la plupart du temps, donc pour aller jouer à des sports adaptés, malheureusement, ce n'est pas permis. Donc quelqu'un, par exemple, qui est en banlieue de Montréal ne peut pas se déplacer pour aller jouer à Montréal au soccer fauteuil roulant, par exemple, et donc est privé de ces services-là parce que dans sa ville, dans son village, dans sa municipalité, les services ne sont pas offerts. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail avec la directrice de Parasport Québec qui vient nous voir la semaine prochaine, mais effectivement, même si le Parasport est en expansion, entre autres, grâce aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques qui ont fait valoir le sport adapté, et qui ont fait connaître plusieurs sports adaptés, et il y a beaucoup de gens en situation de handicap qui s'intéressent aux sports adaptés maintenant. Les ressources demeurent limitées, je n'ai pas besoin de vous dire, on en a parlé beaucoup, à quel point pour la santé physique et psychologique, c'est un plus de faire du sport, mais il y a quand même beaucoup de défis pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent bouger. Donc, on en reparlera un peu plus en profondeur la semaine prochaine. Finalement, pour les ressources intermédiaires d'hébergement, on est au point de rupture. C'est un article qui était paru donc dans Le Devoir, qui nous dit en fait que le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement, c'est des milieux de vie pour près de 20 000 personnes au Québec, particulièrement évidemment des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation d'handicap. Hein. On sait que malheureusement, là, faute d'autres pièces où aller, les ressources intermédiaires d'hébergement deviennent des endroits pour les personnes en situation de handicap. Par contre, le réseau là, n'est pas solide en ce moment. On a les soins pour la clientèle, les personnes vulnérables. Qui sont des soins qui sont inadéquats pour les personnes qui en ont besoin. Près de la moitié des responsables, donc 43% des responsables des installations de ressources intermédiaires songent à fermer d'ici 3 ans. Ça montre à quel point le financement est inadéquat et à quel point ça devient difficile d'opérer, entre autres parce que les coûts d'opération ont énormément monté avec tous les coûts de la vie là, qui augmentent également. Les RI, donc les ressources intermédiaires, reçoivent près de 1,2 milliard de dollars de financement par an, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. Évidemment, c'est un financement qui est énorme, hein, 1,2 milliard. Par contre, ce n'est pas adéquat pour tous les services qu'on doit donner aux personnes en situation d'handicap ou aux personnes vieillissantes. Donc, parce que évidemment, il y a 20 000 personnes et à servir et évidemment la demande continue d'augmenter. Okay. Au-delà des ressources intermédiaires qui sont en place en ce moment, il y en a beaucoup là qui ferment leurs portes. On en voit à toutes les semaines qui décident de fermer leurs portes. On en a peu qui ouvrent. Okay, donc, on en a plus qui ferment que ceux qui ouvrent. Et ça cause évidemment un problème au niveau de la demande qui, elle, de son côté, augmente. Les demandes vont continuer d'être en croissance au niveau des prochaines années, mais l'expansion, elle, est bloquée. Donc, les maisons pour aînés et les résidences privées sont priorisées maintenant au défaut donc des RP, des ressources intermédiaires qui, elles, sont beaucoup moins priorisées. Donc, l'organisme et l'association des ressources intermédiaires d'hébergement, le ARIHQ, s'apprête à renégocier une entente de financement avec le Conseil du Trésor. L'entente de financement vient à terme le 31 mars. Donc, on aura des négociations. Il faudra voir de quel côté va pencher la balance à ce niveau-là. Donc, l'IRI, le réseau des RI, a demandé une aide d'urgence pour répondre à l'inflation, mais l'aide d'urgence n'a pas été entendue par le ministère. Donc, la charge salariale aurait augmenté de 30 % alors que le financement, lui, n'a pas augmenté. Au bout du compte, je le disais, donc il y a beaucoup plus de places qui sont fermées que de places qui sont ouvertes. Et ça cause un problème au niveau des besoins des personnes en situation de vieillissement ou des personnes en situation d'handicap. Par exemple, en Mauricie, il y a 500 places qui sont perdues depuis 2 ans. Donc, c'est ce qui m'a fait à notre émission aujourd'hui. Merci à Mathieu Tessier à la console. Merci à Claire Guérin à la recherche. Et de notre côté, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans Détour. Bonne semaine tout le monde.